VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, la présidence ivoirienne a annoncé ce mercredi un remaniement du gouvernement sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir 2 ans avant l'élection présidentielle. Le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions du gouvernement et reconduit le premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour former une nouvelle équipe, a annoncé le secrétaire général de la présidence Patrick Achi. La coalition au pouvoir, qui regroupe le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié, traverse une crise. Le PDCI ayant de facto refusé de constituer avec le RDR un parti unifié avant le prochain scrutin présidentiel. Relations entre la Mauritanie et le Sénégal, 2 ans et demi après la fin de leur dernier accord de pêche, Dakar et Nouakchott ont conclu une nouvelle convention permettant aux pêcheurs sénégalais de travailler en Mauritanie. Le nouvel accord a été signé lundi soir à Nouakchott en marge du sommet de l'Union africaine entre les ministres sénégalais et mauritaniens de la pêche, Oumar Gueye et Nani Ould Chougra. Avec ce nouvel accord d'une durée d'un an renouvelable, les pêcheurs sénégalais bénéficieront de 400 licences pour capturer 50 000 tonnes de poissons pélagiques avec 400 pirogues. Le débarquement des captures des pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes se fera d'abord en territoire mauritanien pour permettre à Nouakchott de procéder à des contrôles avant leur acheminement au Sénégal. Le Sénégal versera à la Mauritanie 15 euros pour chaque tonne de poissons pêchés, dont 10 euros dus par les pêcheurs et 5 euros par l'État du Sénégal, selon le nouvel accord. Au Mali, les corps de 19 personnes perdues dans le désert ont été retrouvés dans la région de Taoudéni, dans l'extrême nord du pays. Les victimes revenaient d'Algérie, selon notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ils étaient 19 personnes dans un véhicule de transport quittant Bouaj El Mokhtar du côté algérien pour Tombouctou au Mali. Depuis 10 jours, ils étaient perdus dans le désert malien et ont été retrouvés morts de soif le samedi dernier près de Arawan. Certaines des victimes partaient pour rendre visite à leur famille. Une jeune dame était avec 2 enfants. Elle était partie se soigner en Algérie. Dans le lot, il y a aussi des candidats à l'immigration de retour au Bercail. C'est un vent de sable qui a éloigné la direction du véhicule et le chauffeur continuait de rouler, alors qu'il a fait 40 à 100 km de route sans aucun point d'eau. Les parents des voyageurs ont fait 2 semaines sans nouvelles et le bus était stationné à quelques 140 km de Tombouctou, ville dans le désert d'Arawan. Parmi les victimes, il y a 2 femmes et 7 enfants. Ils ont été enterrés le même jour dans le bus. Les objets qui ont été récupérés sont des sacs de voyage, des téléphones portables et une importante somme d'argent. C'est grâce à une caravane de commerçants de Taoudéni que l'information de leur disparition a été remontée au niveau régional. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cour pénale internationale, la polémique provoquée par l'acquittement de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, par le tribunal de La Haye, a rebondi ce mercredi à la CPI. L'accusation affirmant que le jugement surprise prononcé en appel était fondé sur des éléments biaisés. Ancien riche homme d'affaires, devenu chef de guerre puis vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI pour les exactions commises en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. Mais le mois dernier, un jury d'appel divisé a ordonné sa mise en liberté, l'acquittant à la surprise générale de sa condamnation de 2016. Le cas Bemba est revenu aujourd'hui devant la Cour de La Haye dans l'affaire où l'ex-vice-président de la RDC est accusé de subornation de témoins dans le cadre de son principal procès. La CPI doit statuer à ce sujet ce mercredi après que la Cour d'appel dans le cadre de subornation de témoins eut ordonné au juge de revoir les peines allant de 6 mois à 2 ans de prison imposées à l'ancien vice-président et à 2 autres co-accusés en les accusant d'être trop légères. Jean-Pierre Bemba avait notamment été condamné à 1 an de prison et 300 000 euros d'amende. Génocide de 1994 au Rwanda. En France, le parquet général a requis en appel ce mercredi à Paris la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de deux bourgmestres rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda en avril 1994. Les avocats généraux ont désigné Octavien Genzi, 60 ans, et Tito Barahira, 67 ans, comme des artisans de la mort, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Une période de sûreté des deux tiers a été demandée pour Ngenzi, bourgmestre en exercice de 1994 et à ce titre responsable de tous les morts de la commune. À Kabarondo, le massacre le plus effroyable a eu lieu le 13 avril à l'église de la commune où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés espérant gagner un sanctuaire comme l'avaient été les lieux de culte lors des pogroms précédents dans les années 1960 au Rwanda. Les deux anciens bourgmestres condamnés à la prison à vie en 2016 continuent de nier toute participation au génocide.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais a présenté au Parlement une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir. Cette décision intervient dans un contexte de pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles de Riek Machar. Irénée Hermanoumbo fait le point.
Une première mouture du test a été adoptée hier par les députés sud-soudanais. Le test doit être envoyé au Parlement pour une seconde lecture d'ici à 30 jours. Le Soudan du Sud est depuis 2015 dirigé par des autorités de transition pour l'exécutif et le législatif sur la base de l'accord de paix de la même année. Leur mandat expire en août 2018 et la prolongation est nécessaire pour éviter un vide institutionnel. L'opposition parlementaire approuve la procédure, mais pour un député sous couvert de l'anonymat, ces amendements montrent que le gouvernement et le chef de l'État Salva Kiir ne seront pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. La semaine dernière à Khartoum, Salva Kiir et Riek Machar se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu permanent. Mais peu après, les rebelles de M. Machar ont accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs positions. Jusque-là, aucun camp n'a annoncé son retrait des pourparlers en cours.
Au Soudan voisin, Khartoum dit déplorer la nouvelle mise en garde de Washington aux voyageurs, exhortant les citoyens américains à ne pas se rendre en territoire soudanais en invoquant des attaques potentielles de groupes terroristes contre des étrangers. Le nouvel avertissement du département d'État américain a été publié ce lundi sur le site de l'ambassade des États-Unis à Khartoum. En Ouganda, des opposants, journalistes, membres du clergé et aussi des féministes préconise le retrait de la taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Cette mesure, entrée en vigueur dimanche dernier, soulève un véritable tollé dans le pays. Morgan Guériec.
Des jeunes citoyens ougandais, dont des journalistes, juristes, comédiens, étudiants ou membres du clergé, menacent de mobiliser le pays si la taxe n'est pas levée d'ici à vendredi midi. Pour la militante féministe Edna Ninsima, cette taxe est insensée et piétine la liberté d'expression. Depuis dimanche, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'une taxe quotidienne de 200 shillings, l'équivalent de 5 cents, pour accéder à WhatsApp, Facebook, Twitter et des sites de rencontres comme Tinder ou Grindr. Les utilisateurs doivent composer un code qui soustrait la somme de leur crédit de l'Internet mobile. En mars, le président Yoweri Museveni, qui a lui-même 850 000 abonnés sur Twitter, avait écrit au ministère des Finances pour lui demander d'introduire une nouvelle taxe pour lutter contre les conséquences du bavardage en ligne.
Actualité aux États-Unis maintenant, les Américains célèbrent ce 4 juillet le 242e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de leur pays à l'égard de la Grande-Bretagne. Ce jour férié est marqué par des pique-niques, des défilés et des feux d'artifice. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Oui, le président des États-Unis Donald Trump et son épouse Melania donneront l'exemple avec un pique-nique pour les familles des militaires à la Maison-Blanche. La fête du 4 juillet inclut une lecture traditionnelle de la Déclaration d'indépendance sur les marches des Archives nationales à Washington. À l'intérieur du bâtiment, le document original est mis à la portée des visiteurs, ainsi que la Constitution et la Déclaration des droits. Il y aura ensuite un défilé militaire sur Constitution Avenue, dont le point de chute est le Washington Monument, dédié au premier président américain George Washington. Il est prévu également un concert au Capitole avec entre autres l'Orchestre Philharmonique National et des groupes ou des artistes comme les Beach Boys, Chita Rivera, Andy Grammer, les Temptations et C.C. Winans. La célébration se terminera par un énorme feu d'artifice après le coucher du soleil.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.